L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Ce matin, le thème de l'enseignement, c'est le temps convenable. Le temps convenable. On a tous du temps dans la vie. On a tous 24 heures par jour, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a ici qui ont 25 heures par jour? 23 heures, on a tous 24 heures par jour, et on décide qu'est-ce qu'on en fait de ces heures-là. Il y en a qui disent « Ah, on dirait que je n'ai pas assez de temps. » Mais heureusement, quand on donne du temps à Dieu, Dieu sait même multiplier le temps qu'on fait, parce que des fois, savez-vous, si vous prenez un temps de prière le matin, okay, vous avez passé une heure dans la prière avec le Seigneur, bien, le problème qui s'en venait pour vous, bien, Dieu vous a déjà évité le problème. Souvent, c'est comme ça. Au lieu d'avoir un ticket, vous êtes tellement connecté avec le Saint-Esprit que le Seigneur vous dit « Ralentis, Joël, ralentis. » Et là, finalement, bon, ça vient vous économiser 100 $. Hein? C'est merveilleux, c'est payant de donner du temps à Dieu. Et puis, vous savez, des fois, il y a des gens qui se retrouvent en cours ou ils se retrouvent malades, ils passent 2, 3, 4, 5, 8 heures à l'hôpital. Mais imaginez s'ils avaient passé du temps avec Dieu et avaient reçu une guérison surnaturelle, ils viennent d'économiser 8 heures au lieu d'être à l'hôpital. Alors, c'est payant de donner du temps à Dieu dans cette relation. Amen. Et puis aujourd'hui, on va parler comment Dieu veut vous élever lorsque vous allez lui donner de votre temps. Alors, je vous invite à tourner dans 1 Pierre, chapitre 5 et le verset 6. Vous allez voir que le verset que je vais vous lire ce matin, c'est un verset que souvent on l'emploie pas pour parler du sujet qu'on va parler ce matin. Mais c'est quand même intéressant. Dans 1 Pierre, chapitre 5 et au verset 6, il est écrit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Voyez-vous ici? « Afin qu'il vous élève au temps convenable. » Souvent, ce qu'on a fait avec ce verset-là, on a toujours mis l'accent sur la partie qui dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » Et oui, c'est certain qu'on doit s'humilier devant le Seigneur. On veut marcher dans l'humilité. Amen. C'est certain qu'on veut faire ça. Mais on oublie parfois l'autre partie qui dit « afin qu'il vous élève au temps convenable ». Ça veut dire que Dieu veut vous élever. Amen. Il y a deux personnes qui sont d'accord. Ça veut dire que Dieu veut vous élever d'où c'est que vous êtes présentement. Dieu ne veut pas vous avoir écrasé. Savez-vous ça? Dieu ne veut pas vous avoir comme des chrétiens écrasés dans la vie, découragés. Il veut vous avoir encouragés et bâtis. Donc, on vient de le lire, 1 Pierre 5, 6. Vous savez, il y a des gens, des chrétiens qui parlent constamment comment le Seigneur est en train de les briser. Avez-vous déjà rencontré des gens qui disent « Le Seigneur est en train de me briser ». Et oui, là, je suis brisé. Et finalement, la façon qu'ils vont parler, c'est pas simplement des chrétiens brisés, c'est des chrétiens écrasés par la vie. Et je crois pas que c'est la volonté de Dieu pour nous. Certainement, Dieu veut qu'on soit brisé dans notre orgueil. Ça, c'est la volonté de Dieu. Qu'on soit brisé dans notre orgueil et qu'on soit pauvre en esprit. C'est ça qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Dieu veut qu'on soit pauvre en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire être pauvre en esprit? Premièrement, on va aller le lire dans Matthieu 5, verset 3. Ça dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc, Dieu veut qu'on soit pauvre en esprit. Quand on parle d'être pauvre en esprit, ça veut dire qu'on réalise qu'on est en faillite sans Dieu. Spirituellement, sans Dieu, on est en faillite. Donc, je suis pauvre en moi-même. Je vois que c'est vide. J'ai rien à offrir à Dieu. Je suis en faillite spirituellement. Mais quand Dieu entre dans ma vie, à ce moment-là, je suis rendu plein. Je deviens riche en esprit. Parce que le Saint-Esprit habite en moi. Croyez-vous ça ce matin? Je vais vous lire d'autres versets concernant comment Dieu veut qu'on soit brisé, mais c'est en rapport avec notre orgueil et notre volonté personnelle. Dans Psaume 34, verset 18, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Si vous êtes brisé dans votre cœur, vous avez été peiné, Dieu veut vous sauver de cette peine. Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous restaurer, c'est la volonté de Dieu. Et certainement, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Quand on connaît quelqu'un qui est attristé, le Seigneur est près de cette personne-là. Mais il y a des gens qui ont pris ce texte-là pour dire que Dieu veut qu'on soit constamment brisé. Parce que le Seigneur est près de ceux qui sont brisés, donc il faut rester brisé. Et c'est vrai qu'on doit toujours rester brisé dans notre orgueil. On ne veut jamais retourner à cette place d'orgueil ou de confiance en soi. Il faut toujours garder notre confiance dans le Seigneur. Amen. Mais la recette, ça dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi? Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le but d'être brisé, c'est d'être sauvé. C'est d'expérimenter quelque chose différemment. C'est pas de rester toujours brisé. Le psaume 51, verset 17, ça dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, ou qui veut dire accablé. Dieu n'est pas dédaigneux de quelqu'un qui a l'esprit brisé. Mais qu'est-ce que Dieu recherche vraiment? C'est des gens qui sont tellement humbles, qui réalisent qu'ils sont pauvres en esprit et que le Seigneur a besoin de venir combler leur vide. Cette semaine, même en fait, c'était hier, j'étais chez mes parents et puis j'ai écouté un petit peu de télévision en après-midi. Ça s'adonnait que c'était Billy Graham, des classiques de ses prédications des années 80, en 83, je crois. Et puis, il parlait à Harvard et ensuite, il a parlé à Yale University. Et puis, il y avait, dans son auditoire, c'était tous des intellectuels, des gens qui étudiaient pour devenir des professionnels dans la vie. C'est des gens qui ne croyaient pas nécessairement en Dieu. Donc, c'était vraiment un public mélangé. Des athées, des agnostiques, des gens de d'autres religions qui étaient là. Et Billy Graham était là, lui, pour prêcher l'Évangile. J'ai trouvé ça, c'est quand même spécial. C'était tout un discours différent. Mais en tout cas, quand l'évangéliste Billy Graham parlait, à la fin, comme toujours, il a fait l'invitation aux gens pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Et qu'est-ce que j'ai trouvé remarquable, c'est quand il filmait l'auditoire, on voyait les visages des gens. Il a dit, comme d'habitude, je vais vous inviter à pencher vos têtes, fermer vos yeux et on va prier ensemble. Et là, on voyait, il y avait des personnes qui le faisaient, mais il y en avait plein d'autres qui avaient les bras croisés et qui regardaient l'évangéliste, un des plus grands hommes de Dieu qu'on a eu de notre siècle, et puis qui était comme ça, avec les yeux tout grands ouverts. Ça, c'était des gens qui n'étaient pas brisés. C'est des gens orgueilleux qui pensaient « j'ai pas besoin de Dieu. Je suis plus intelligent que ça, que croire dans le Dieu de la création. » Mais Dieu veut qu'on soit brisé, qu'on réalise « hey, je suis en faillite sans Dieu. Je suis en faillite. » Et quand on a réalisé ça, là, Dieu veut faire de quoi en nous. Il veut pas nous laisser dans cet état-là. Il veut nous relever. Amen. Je vais vous inviter à maintenant tourner dans Ésaïe 57, verset 15. Ésaïe 57, verset 15. Il est écrit, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis un homme, mais je suis avec l'homme contrit, accablé et humilié. Afin de ranimer les esprits humiliés ou abattus, afin de ranimer les cœurs contrits ou accablés. » Voyez-vous ici, ce que Dieu veut faire, c'est prendre quelqu'un qui est écrasé par la vie, écrasé par les soucis, et là, les ranimer. Quand quelqu'un a besoin d'être ranimé, souvent, là, on va penser à quelqu'un qui est tombé à terre, et là, on voit quelqu'un, un ambulancier, par exemple, qui est là, en train de ranimer la personne. L'objectif, c'est de ramener la personne à la vie, n'est-ce pas? Pour ranimer, c'est pour nous ramener à la vie. C'est pas pour nous écraser davantage et nous briser davantage. Amen. Une fois qu'on est déjà brisé et on a mis de côté notre chair, et là, le Seigneur peut faire du ministère auprès de nous et nous ranimer. C'est ça que Dieu veut faire dans nos vies. Et pourquoi est-ce que Dieu veut nous ranimer comme ça? Bien, c'est pour qu'on soit des chrétiens remplis de la puissance de Dieu. Donc, le croyant animé par la puissance de Dieu, c'est le croyant qui a reçu cette touche de la part de Dieu, qui a été ranimé par le Saint-Esprit. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Dans Actes, chapitre 1 et le verset 8, il est écrit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous recevrez une puissance. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous ranimer et nous donner son Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que Dieu veut nous donner cette puissance? Est-ce que c'est pour avoir des bonnes réunions dans la présence de Dieu? Certainement. Mais ça ne se limite pas à ça. On vient de le lire ensemble. Dieu veut nous donner cette puissance qui va venir sur nous afin qu'on soit des témoins, qu'on soit des porte-paroles pour Dieu, pour que notre bouche soit remplie des paroles de Dieu. Et quand on rencontre des gens qui sont perdus, on va avoir cette puissance en nous et la parole de Dieu qui va venir où on va pouvoir décréter la parole sur la vie des gens et emmener des gens au Seigneur. C'est pour ça que Dieu veut nous remplir de sa puissance. Ce n'est pas pour qu'on soit gonflé de puissance et qu'on soit assis, prêt à exploser de puissance. Mais cette puissance-là doit être relâchée dans nos vies et toucher d'autres personnes. Amen. Mais premièrement, il faut être animé. Et c'est ça qu'on veut, être animé de cette puissance. C'est la volonté de Dieu pour nous. Dans Éphésiens 3, verset 20, je vais vous inviter à tourner là. Il y a des gens qui disent, « Oui, Joël, moi, là, je veux avoir plus de la puissance de Dieu. » Et on a souvent parlé qu'est-ce qu'on doit faire afin d'avoir plus de puissance. Certainement, il faut se consacrer. Donc, on va lire la parole de Dieu, on va prier, on va passer du temps dans la présence de Dieu, tout ça. Mais une des choses, on doit également être prêt à aller travailler pour le Seigneur, se mettre à l'œuvre. Souvent, c'est là où ce que Dieu va nous donner l'onction qu'on a besoin pour faire des œuvres miraculeuses. Je connais un homme de Dieu, son ministère a fait le tour du monde. Il y a un ministère de puissance, d'explosion. Là, c'était, il y avait même des miracles créatifs dans son ministère. Savez-vous comment il a commencé, cet homme-là? C'était un homme qui travaillait à fendre du bois. Et puis, quand il ne travaillait pas, il passait son temps dans le parc. Puis, il allait évangéliser les gens. Il passait son temps à jaser avec les gens dans la rue. Et là, la puissance de Dieu venait sur lui. Et là, il commençait à prier pour les malades dans les rues. Et là, il y avait des miracles qui se passaient. Dieu, souvent, là, va nous confier des petits mandats comme ça, où on prie dans le parc, sur la rue, on prie avec des amis, et on est obéissant à agir dans des petits contextes comme ça. Et là, Dieu voit notre fidélité dans les petites choses. Ensuite, il nous en donne des plus grandes choses. Mais souvent, le lieu des miracles commence dans le cachet, où les gens ne voient pas. Les gens ne vous voient pas, ce n'est pas votre nom qui est écrit sur une grande pancarte, mais tout seul, dans l'intimité, dans un parc, vous priez pour quelqu'un et Dieu guérit surnaturellement la personne. C'est ça que Dieu veut faire, mais ça commence là. Si on veut plus de puissance, il faut donner notre temps, se libérer pour le Seigneur, pour qu'il puisse se servir de nous. Là, vous dites, « Ouais, mais je ne sais pas comment Dieu peut faire. » Dans Éphésiens 3:20, ça dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandions ou pensons. » Donc, encore une fois, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. » Voyez-vous, ce n'est pas votre puissance que Dieu a besoin, c'est la puissance de Dieu qui va travailler en vous et à travers vous. Dieu, là, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de vos corps. Il a besoin de vos bouches, il a besoin de vos jambes, il a besoin de vos mains pour être à l'œuvre sur la terre. Dieu a un corps, le corps de Christ, c'est nous, ça. Et ce que Dieu veut, c'est justement se servir de nous. Mais si on reste caché, bien Dieu est caché aussi. Mais quand on est là, on n'a pas honte de l'évangile de Jésus-Christ et on prêche l'évangile quand Dieu nous donne l'opportunité. Et même, on crée des opportunités même pour être disponible pour Dieu. Dieu, là, va se servir de nous et vous allez toucher à la puissance de Dieu comme vous n'avez jamais touché auparavant. Ça, c'est une clé très importante. Je vais même vous inviter à tourner dans un texte, dans la parole de Dieu, dans Matthieu 10, 32-33. Ça dit, « C'est pourquoi tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père céleste. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père céleste. » Alors, si on a honte de Dieu, Dieu ne va pas nous reconnaître devant son Père. Mais si on n'a pas honte, mais au contraire, on s'affirme publiquement pour le Seigneur Jésus-Christ, bien, le Seigneur Jésus va nous reconnaître également devant son Père. Amen. Et ça, c'est une chose qu'on doit faire attention dans notre contexte ici, où il y a peu de chrétiens. On peut être gêné. On peut être gêné des fois de se dire chrétien. Mais Dieu veut qu'on puisse avoir cette audace, qu'on puisse être rempli d'audace et de partager notre foi ouvertement. Et moi, je crois que si on a plus de croyants qui sont audacieux, là, qui s'affirment, moi, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Ah oui, finalement, là, si une personne inconvertie rencontre plein de chrétiens qui n'ont pas honte, ils vont réaliser que finalement, là, c'est pas si pire que ça. Ça ne doit pas être si pire parce que les gens n'ont pas honte de se prononcer. Mais si la majorité des chrétiens sont des chrétiens top secret, où il n'y a personne qui le sait, bien là, on a honte de l'Évangile. Et là, notre flamme, la puissance que Dieu voudrait nous donner, elle ne va pas couler à travers nous. Mais Dieu, là, veut se servir de vous et Dieu veut se servir de vos mains pour faire des miracles. Savez-vous ça? S'il y a des gens de malades, et là, vous rencontrez quelqu'un dans le parc, par exemple, vous jasez avec la personne commence à vous parler qu'elle a des problèmes, bien là, vous faites demander, « Est-ce que je peux prier pour vous? » Ah, OK, hein, je n'ai rien à perdre. Et là, vous priez, la personne ressent la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la personne est guérie. C'est un témoignage et le Seigneur va se servir de ce miracle pour amener la personne au Seigneur. Mais il faut penser à ça, que les miracles commencent quand on sort de nos églises, quand on sort de nos quatre murs et on se met à l'œuvre pour Dieu. C'est lorsque les miracles commencent. C'est la puissance qui agit en nous, mais c'est la puissance de Dieu qui agit en nous. Et dans plusieurs de nos églises, on pourrait dire Pentecôte, pendant longtemps, on a mis de côté la puissance de Dieu. Moi, je me suis promené avec mon épouse aux États-Unis. Il y avait une place où on avait été, une église Pentecôte, qui parlait que le vent du Saint-Esprit, qu'on lit dans Actes 2, 4, que ce n'était pas vraiment un vrai vent du Saint-Esprit. Toutes ces choses-là, on met de côté la puissance de Dieu. Et nous, même si on n'est pas une église pentecôtiste comme telle, moi, je recherche la puissance de la Pentecôte parmi nous. C'est ça que je veux. Est-ce que vous avez soif, vous, pour plus de la puissance de Dieu dans vos vies? Amen. Et il y a des fois des gens qui pensent, bien, le Seigneur va se servir de moi si je suis assez équipé, si j'ai un diplôme, si je deviens un docteur en théologie. Et Dieu n'est pas contre ça, les diplômes. Mais je peux vous dire que Dieu ne les reconnaît pas. Vous pouvez passer votre vie et être un gradué d'un séminaire. Vous avez toutes les lettres derrière votre nom. Mais devant Dieu, là, ces lettres-là, ils ne valent rien. Dans le sens que, pour que sa puissance coule à travers vous, ce n'est pas ça que Dieu regarde. Certainement, je ne suis pas en train de dénigrer les études. Oui, ça vaut de quoi, dans le sens, on est allé chercher de la connaissance, tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas par là que Dieu va passer pour voir s'il va se servir de vous. Dieu va voir premièrement votre cœur, votre disponibilité, votre amour pour lui, votre niveau de consécration. Puis quand c'est en règle, Dieu va vouloir se servir de vous. Donc, mettez-vous pas sur un joug et pensez que, ah ben je ne connais pas assez la parole. On est dans un programme présentement pour la connaître, la parole. Alors, on reste encouragé là-dedans. On n'oublie pas la Pentecôte. On ne veut pas mettre ça de côté. Et on ne veut certainement pas être satisfait avec notre état spirituel. On veut toujours aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Amen. Je vais vous inviter à tourner dans la parole maintenant. On va voir le modèle parfait, là. Celui qui est parfait pour nous. Vous allez deviner c'est qui peut vraiment nous montrer comment on peut laisser la puissance de Dieu couler à travers nous. La semaine passée, on a parlé comment Jésus était loin du Saint-Esprit. Et comme il était loin du Saint-Esprit, les miracles coulaient à travers sa vie en tant qu'homme. Vous vous en rappelez? Et vous avez cette même onction aujourd'hui. Et là, on peut voir ce que Jésus faisait quand venait le temps d'évangéliser, quand venait le temps de partager avec des inconvertis. Alors, dans Jean chapitre 4, on va y aller ensemble. Jean chapitre 4, et on va aller au verset 3. Vous êtes encore là ce matin? Personne endormi? Ce matin, on va voir comment évangéliser. Et Jésus est celui qui peut vraiment nous montrer comment bien faire. Alors, commençons au verset 4. Jean 4 et le verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demanderas-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 11, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Verset 7, la femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. » Verset 19, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, en parlant des Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, selon qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes les choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et on peut continuer à aller verset 29, au verset 28. « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas point lui le Christ? » Donc, ici, qu'est-ce qui est intéressant? On voit l'évangélisation selon Jésus. Qu'est-ce que lui a fait, là? Comment il parlait? OK? Premièrement, qu'on doit comprendre. Bon, Jésus est notre modèle parfait. Jésus savait bâtir des ponts avec les gens. On voit cette femme qui était là. Et puis, vous connaissez le contexte. Dans le temps, les Samaritains n'avaient aucune relation avec les Juifs. Il y avait comme un racisme d'établi, là. Et puis Jésus, lui, il a franchi cette barrière de racisme et là, il a commencé à parler avec la femme sur un point vraiment, on pourrait dire terre à terre. Ce n'était pas une grande question théologique. C'est une simple question, donne-moi à boire. Est-ce que je peux avoir de quoi à boire? Donc, il savait comment percer dans son monde. Il savait comment bâtir des ponts. Une deuxième chose que le Seigneur Jésus a faite, Jésus parlait avec n'importe qui. Parce que dans Actes 10, 34, ça dit, « Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. » Dieu, Jésus, lui, il n'a pas dit, « Ah ben, c'est une Samaritaine, je ne parlerai pas avec elle. » Jésus n'a fait aucune différence. Il a parlé avec n'importe qui. Nous, pareillement, on devrait faire pareil. Pas faire de distinction entre les gens. Et de nos jours, on ne fera pas de distinction habituellement à cause d'une race, hein, à cause d'une telle couleur de peau. On n'est plus comme ça. Hein. Pendant longtemps, les gens ont été comme ça. Mais de nos jours, je pense qu'on a passé cette étape-là, en tout cas, je l'espère. De nos jours, qu'est-ce que les gens vont faire ou ne feront pas, là, si s'ils voient quelqu'un qui ne semble pas assez à leur niveau, quelqu'un qui semble plus pauvre, hein? C'est les gens qu'on... Des fois, les gens vont dire, « Oh, je ne parlerai pas avec cette personne-là. » Ou une personne qui ne sent pas bon. Une personne, là, vous dites, « OK, cette personne, elle ne sent pas propre, elle ne sent pas bon. Moi, je suis certainement plus élevé que cette personne-là. » Et puis là, finalement, on passe à côté de l'âme que Dieu voulait qu'on rejoigne. Mais Jésus ne faisait pas ça, lui. Il parlait avec n'importe qui. Il allait même parler avec une personne qui, selon les coutumes à l'époque, là, il ne devait pas parler avec. Une troisième chose que Jésus faisait, il faisait un effort malgré la fatigue. Avez-vous remarqué? Verset 6, ça dit, il était fatigué du voyage. Il était là, il était fatigué, mais pourtant, il a pris la peine de parler avec quelqu'un. Verset 4, Jésus parlait le langage du peuple. Quand vous parlez avec quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus, est-ce que vous parlez en chrétien? Par exemple, oui, chère personne, avez-vous été lavé dans le sang de l'agneau? La personne va vous regarder et dire, c'est quoi ça? Là? Es-tu né de nouveau? As-tu expérimenté la nouvelle naissance? Certainement, on peut y arriver à parler de ça et l'expliquer tout ça, mais il faut faire attention à la façon qu'on parle, la façon qu'on va aborder les gens. Cette semaine, je parlais avec Jean au Tim Hortons. Et puis, Jean me disait qu'au début de sa vie chrétienne, il avait été un petit peu surpris parce que les gens parlaient justement comme ça, comme des chrétiens. Hein? « Es-tu rempli de la gloire de l'Éternel en ce jour glorieux? Hein? » Ça, c'est moi là qui va parler comme ça. Mais il faut faire attention qu'on parle un langage que les gens vont comprendre. Ici, on voit que Jésus parlait pour qu'elle comprenne. Une autre chose, Jésus refusait d'argumenter. Voyez, là, il y avait une place, on va voir au verset 20, la dame, elle commence à dire, « Nos pères ont adoré sur sa montagne, mais vous autres, les Juifs, vous dites qu'on doit adorer à Jérusalem. C'est qui a raison? » Jésus, tout d'un coup, aurait pu dire, « Bon, OK, ma chère madame, là, je vais vous expliquer. C'est nous autres qu'on a raison. Hein, il aurait pu faire ça, il aurait pu dire ça. Mais tout d'un coup, là, il ne se laisse pas distraire, mais il continue à parler de l'eau vive. Il continue à parler. Dieu recherche, en réalité, qu'est-ce qu'il recherche vraiment? C'est des gens qui vont adorer en esprit et en vérité. C'est ça que Dieu cherche. Mais il aurait pu être distrait. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Là? Quand vous allez parler avec quelqu'un, il va chercher toutes les façons de vous amener une distraction. La personne va commencer à dire, « OK, tu me donnes ça comme rapport, mais qu'est-ce qui se passe des gens en Afrique qui n'ont jamais entendu parler de Dieu? » Avez-vous déjà eu ça comme question, par exemple? Vous parlez de Jésus à quelqu'un, puis tout d'un coup, il vous emmène en Afrique. Ça, c'est une distraction. On va dire, est-ce qu'on peut parler des gens en Afrique plus tard? Mais toi, ta situation, c'est quoi? Hein? Faut toujours rester sur la bonne piste. Parce que l'ennemi, c'est ça qu'il va vouloir faire. Je me souviens, mon épouse et moi, pendant un temps, on évangélisait une jeune fille dans son appartement. On parlait du Seigneur. Et quand c'est rendu à l'endroit où on devait lui demander si elle voulait donner sa vie à Jésus-Christ, tout d'un coup, son chat s'est mis à grimper dans le moustiquaire. On était comme, aïe aïe, on voyait que ce chat-là là, était animé par un démon. J'oserais même le dire, mais c'est un chat, la jeune fille a dit, « Hey, mon chat n'a jamais fait ça, là. » Mais là, tout d'un coup, le chat le capotait, si on veut. C'est un chat démonisé. Moi, j'aime pas les chats en partant, là. Ça fait que c'est facile pour moi de croire là-dedans. Mais en tout cas, il y a toutes sortes de distractions. Et nous, là, on doit être sensibles au Saint-Esprit et voir comment est-ce qu'on va, on va éviter la distraction. Jésus l'a fait. Nous autres aussi, on peut le faire. Amen. Et une autre chose, Jésus, loin de l'Éternel, se rendait disponible à l'Esprit de Dieu. On a vu qu'il y avait une parole de connaissance au verset 18. Jésus a dit, c'est vrai, qu'est-ce que tu as dit? Tu as cinq maris. Hein? Il a dit, car tu as cinq maris, et cela, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc, il y avait la puissance de Dieu qui était à l'œuvre dans sa vie. Et il y avait une parole de connaissance surnaturelle qui a coulé à travers lui. Ça, c'est une chose qu'on veut avoir quand on évangélise quelqu'un. On veut être tellement connecté avec l'Esprit de Dieu que Dieu nous dit des informations sur la personne. Puis je peux vous dire, si vous faites ça, puis si vous laissez l'Esprit de Dieu vous parler, puis vous êtes à l'écoute à ce que Dieu va vous dire, vous allez être surpris de ce qui va sortir de votre bouche. Puis moi, j'ai été surpris moi-même, des fois, en parlant avec des gens. Puis des fois, on ne dit pas aussi clairement que Jésus l'a fait, mais des fois, on est juste dirigé dans le sujet dans lequel on s'en va. Comme des fois, je parle avec quelqu'un, puis tout d'un coup, je commence à parler. Vous savez, là, quand il y a un enfant qui est battu par ses parents, Dieu, c'est pas lui l'auteur de ça. Puis quand on commence à parler à une personne comme ça, puis on commence à parler, par exemple, juste d'un thème comme ça général, j'ai pas dit que c'était lui qui se faisait battre comme enfant, mais je commence à parler un enfant battu, puis là, je le regarde dans les yeux, puis la personne vient les yeux pleins d'eau, là. Ça, c'est simplement une parole de connaissance que je viens de donner. Puis la personne dit, aïe, aïe, là, c'est Dieu qui me parle ici, là. Comment ça qu'il me parle d'un enfant battu? Il connaît-tu ma vie, ce gars-là? Non, moi, je ne connais pas sa vie, mais l'Esprit de Dieu connaît sa vie. Puis l'Esprit de Dieu veut se servir de vous comme ça. Mais il faut demeurer toujours connecté avec l'Esprit de Dieu. Et même quand on partage l'Évangile avec quelqu'un, c'est important. Si on est avec une autre personne, un autre croyant qui parle en même temps, moi, ce que je fais, là, pendant que l'autre personne parle, moi, je prie en esprit dans mon cœur. Je prie. Je prie pour l'autre personne qui témoigne, puis je prie aussi pour la personne qui est en train d'écouter. Que vraiment, que ce soit la pensée de Dieu qui s'établisse. Parce que c'est tellement facile d'être un témoin de Jésus, si on veut, terre à terre, puis qui est déconnecté. On peut parler aux gens carrément juste à partir de notre tête. Puis juste avoir des arguments, des explications qui sont bonnes, mais ce n'est pas l'explication que la personne a besoin. Qu'est-ce que la personne a besoin? C'est ce que l'Esprit a pour cette personne-là. Ça fait que c'est vraiment important de toujours rester connecté avec le Saint-Esprit, comme Jésus l'a fait ici, comme on a vu dans la parole. Donc, il était disponible au Saint-Esprit. Et dans Jean 2, 23, ça nous dit que plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Jésus avait des miracles dans son ministère. Et si vous priez pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, okay, la personne ne croit pas en Dieu, mais vous dites, mais peux-tu prier pour ton bras qui est malade ou ton dos, peu importe. Puis la personne dit, OK. Et tout d'un coup, la personne ressent la chaleur de Dieu, puis elle reçoit une guérison. Il y a des bonnes chances que la personne va être touchée par ça. Amen. Et là, Dieu crée la plateforme parfaite pour partager l'Évangile. Ça, c'est une chose qu'on doit apprendre de la vie de Jésus. Une autre chose, Jésus marchait toujours dans l'amour. Jamais dans le mépris ou le jugement. Il aurait pu dire, vous autres les Samaritains, là, vous êtes tout croche. Bon, il y a ça, là, qui n'est pas correct. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il n'a pas parlé comme ça, mais il était rempli de l'amour, toujours animé par la compassion de Dieu dans sa vie. Ça, c'est une autre chose. Les gens vont le sentir. Quand vous allez partager votre foi avec quelqu'un, les gens vont le savoir, ils vont le ressentir si vous êtes en train de parler d'une attitude hautaine ou vous êtes en train de dénigrer leur personne, dénigrer même leur religion. Dieu veut qu'on soit rempli de l'amour. Puis quand on est rempli de l'amour, la personne ne va pas se sentir écrasée, mais elle va sentir que, OK, je sais qu'il n'est pas d'accord avec les choses que je dis, mais à quelque part, je me sens valorisé. Je me sens que la personne me parle parce que la personne m'aime. C'est ça qu'on veut comme témoignage, que ce soit l'amour qui soit le témoignage premier. Par la suite, quand les gens là, se sentent aimés, là, ils vont s'ouvrir à vous. Et là, vous allez avoir une porte, vous allez avoir la permission de les aider à sortir de leur mauvaise compréhension. Comprenez-vous? Donc ça, c'est des choses qu'on apprend de la vie de Jésus-Christ. Sept principes que je viens de vous établir. Donc Jésus savait bâtir des ponts, il parlait avec n'importe qui, il faisait un effort malgré la fatigue, donc il ne se laissait pas gouverner par ses émotions humaines. Jésus parlait le langage du peuple, Jésus refusait d'argumenter ou de se faire distraire. Jésus, loin de Dieu, se rendait disponible à l'Esprit de Dieu et il marchait toujours dans l'amour. Ça, c'est des principes qu'on peut apprendre de la vie de Jésus-Christ. Et juste en terminant, au verset 35 du même chapitre, Jésus parlait à ses disciples. Il dit, « Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Dites pas, dans 5 mois, on va faire de quoi pour Dieu. Dans 5 mois, peut-être, je vais commencer à partager la foi que j'ai, parce que présentement, là, je ne suis pas assez qualifié. Non, il dit, ne dites pas ça. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Pendant longtemps dans l'Église, on a dit, bien moi, je suis en train de semer, il y a quelqu'un d'autre qui va récolter. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est absolument vrai. On vient de le lire. Mais verset 38, ça dit, je vous ai envoyé moissonner. On n'est pas juste envoyé pour semer l'Évangile, on est envoyé pour moissonner aussi. Donc, on est appelé à voir des âmes venir au Seigneur. Si on pense toujours qu'on fait juste de la semence, puis quelqu'un d'autre va récolter, on n'aura pas la foi relâchée pour voir des personnes venir au Seigneur. Certainement, on va toujours semer. Puis il y a quelqu'un d'autre peut-être qui va venir récolter. Mais attendons-nous également à récolter des gens perdus. Croyez-vous ça? Il faut s'attendre que les gens à qui on parle, ils vont être intéressés puis qu'ils vont dire oui à Jésus. OK? C'est une chose importante. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Moi, je crois ça. Amen. Je crois ça pour nous, comme Église. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On va s'en aller dans une application personnelle. On va voir, OK, maintenant, là, comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans nos vies? C'est quand même assez de base ce que je vous ai donné dans la vie de Jésus, qu'est-ce qu'on a vu. Mais il y a des choses maintenant qu'on doit faire, vraiment pour se positionner, pour être les témoins dont le Seigneur va utiliser. Et combien de personnes ici aimeraient voir des gens qui sont perdus dans vos familles, par exemple, vos amis, dans votre entourage, qui deviennent des enfants de Dieu avec vous, qui soient sauvés comme vous? Bien, on veut tout ça, n'est-ce pas? Donc, on devrait être intéressé. Hein, moi, je suis intéressé aujourd'hui à savoir comment est-ce qu'on peut voir des personnes se joindre à nous. Amen. L'application personnelle. Première chose, soyons différents. Soyons différents. Si on agit comme le monde, les gens ne verront pas de différence avec nous puis ils ne seront pas inspirés à se joindre à nous. Si vous sortez avec vos chums, par exemple, et puis, bon, vos chums, ils fument toute la cigarette, et puis là, vous dites, ah, bon, pour faire comme les autres, je vais commencer à fumer. Bien là, vous êtes en train de tarnir votre réputation, votre témoignage. On veut être différent, pas arrogant, mais différent. Vous savez, moi, je ne bois pas d'alcool, puis je vais vous dire pourquoi. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, montre-moi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Parce que je sais qu'il y a plein de perspectives concernant l'alcool, puis je ne ferai pas une étude aujourd'hui, vous présenter des points différents, là, mais j'ai demandé au Seigneur, montre-moi, Seigneur, veux-tu que je boive de l'alcool ou non? En tant que les deux, le Seigneur m'a donné un rêve, et dans mon rêve, j'ai eu un verre de vin qui est venu devant moi, puis ça me dit, c'est ton dernier verre, puis là, je me suis réveillé. Je savais, ça, c'est, j'ai plus jamais touché à l'alcool, parce que le Seigneur m'a dit de ne pas toucher à l'alcool. Bon, mais le Seigneur va vous guider également dans vos vies, comment vous devez marcher avec le Seigneur. Mais une chose, qu'est-ce qu'on veut? On veut être différent. On ne veut pas que les gens voient qu'on est pareil comme eux. Mais si quelqu'un m'offre de l'alcool, par exemple, je m'en vais chez quelqu'un, et quelqu'un dit, « Ah, veux-tu un verre de vin, Joël? » Je ne dirais pas, Non, merci, moi, je bois pas d'alcool. Parce que tout d'un coup, qu'est-ce que j'ai fait, là? Je bois pas d'alcool, moi. L'attitude que je suis en train de donner, c'est que si toi, tu bois de l'alcool, tu es inférieur à moi. Je viens de donner ça comme image. Mais si je dis, hey, moi, je suis tellement, là, tellement rempli de joie, j'ai pas besoin de ça, donne-moi de l'eau pour je vais être correct. Comme ça, ça passe bien mieux. N'est-ce pas? Que dire, hey, tu veux pas m'en donner parce que watch out, là. Juste de l'eau, là, tu vas voir, je vais rebondir ses murs. On a une façon, là, d'aborder les gens sans les offusquer. C'est ça qu'on veut faire. Parce que sinon, là, on tombe dans l'arrogance spirituelle. Puis ça, là, ça pue au nez du monde. Puis c'est ça qu'on veut pas. Des chrétiens qui puent au nez. Hein, on veut des chrétiens, là, que les gens vont voir, OK, il boit pas d'alcool. Il doit avoir ses raisons, mais il est cool là-dedans. Il m'accuse pas. OK? Donc, et on voit dans Daniel chapitre 6, versets 3 à 4, Daniel, ça dit, « Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. » Est-ce que ça peut être notre témoignage? Qu'on a tellement un bon témoignage, il n'y a personne qui peut dire de quoi à notre sujet. Qu'on va vraiment ressembler à Jésus-Christ. Tantôt, on a vu comment Jésus-Christ avait une bonne façon d'évangéliser. Il avait des bonnes pratiques dans sa vie. Mais aussi, il faut lui ressembler à ce niveau-là, dans notre modèle biblique. Qu'on puisse marcher d'une façon qui va vraiment être sans tâche, un bon témoignage. Est-ce que c'est possible pour nous? Oui, comment est-ce qu'on va y arriver? Comment est-ce qu'on va y arriver à être comme ça? Est-ce que c'est par en prenant un joug de religion où on se fait écraser par « tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça » Des fois, la religion, qu'est-ce que ça fait? Moi, je peux vous dire, quand j'étais jeune, j'étais adolescent, là, j'étais un petit peu jaloux des témoins de Jéhovah. Vous avez dit « pourquoi? » Parce que moi, en tant que chrétien qui est libre d'être conduit par l'Esprit de Dieu, quand j'étais en train de former mes convictions personnelles, je me disais, si seulement quelqu'un peut m'arriver puis me dire toutes les affaires, là, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, ça serait facile, j'aurais pas besoin de me casser la tête. Mais vu que je suis libre en Christ, je dois lire la Bible et je dois être guidé par l'Esprit, je dois être éclairé par le Saint-Esprit. C'est bien plus compliqué. Mais savez-vous, on n'est pas dans une religion. Ça veut dire, vu qu'on n'est pas dans une religion, on va lire la parole de Dieu et c'est à l'Esprit de Dieu de nous donner le discernement des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais quand tu es dans une religion, ben là, tu fais tout dicter quoi faire, pas quoi faire. Mais Dieu nous donne cette liberté et ça nous demande la maturité de savoir qu'est-ce que je devrais faire et qu'est-ce que je ne devrais pas faire. C'est une question de maturité ici, là. Je vous dis ça pas pour que vous deveniez témoin de Jéhovah. C'était ma réflexion quand j'étais jeune. Des fois, je disais, mais il y a lui qui dit ça, il y a une autre personne qui disait ça. C'est quoi l'affaire? Il n'y a personne qui me dit, tu sais, c'est comme, c'est ça, c'est ça. Mais l'Esprit de Dieu, comme on devient plus proche de lui, comme on devient mature, c'est lui qui nous dit la vraie chose, comme on lit la parole. Amen. Donc, la façon là, qu'on peut appliquer ça est différente. C'est dans 1 Jean 2, versets 15 à 17. Ça dit, n'aimez point le monde. OK, il ne faut pas aimer personne. C'est pas ça que ça veut dire. N'aimez point le monde. Ça veut dire, n'aimez pas le système du monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, faut pas avoir l'amour du monde, dans le sens, le système du monde. Les gens s'en vont tous se saouler le vendredi soir, le samedi soir. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes pas censé d'aimer ça. Vous n'êtes pas censé de dire, « Hey, je manque de quoi? » On ne devrait même pas penser comme ça qu'on manque de quoi. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. Au contraire, si je m'éloigne de Dieu, je vais manquer des choses de Dieu. Je vais manquer les bénédictions que Dieu en réserve pour ma vie. C'est bien pire manquer ça que de manquer de vomir sur une bolle de toilette le lendemain parce qu'on s'est saoulé. Moi, je peux vous dire, je ne me suis jamais saoulé. Ce n'est pas gloire à moi, c'est grâce à Dieu. Parce que ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas des affaires de même. Parce qu'on passe à côté. On manque les privilèges. Puis les gens qui pensent que le vin normal, là, c'est ça le maximum dans la vie, ils n'ont pas goûté au vin nouveau de l'Esprit de Dieu. Il y a tellement plus qu'on peut avoir par le Seigneur. Mais il ne faut pas aimer le monde. Amen? Mais il faut aimer les gens dans le monde. Une distinction. Il faut aimer les gens dans le monde, certainement. Donc, ça, c'est facile. Soyons différents. Qui ici peut être différent? Vous allez dire, ben, je suis déjà différent, Joël. Regarde-moi. Dans l'autre chose qu'on doit apprendre, c'est croyons dans notre appel. Vous avez un appel. Il y en a certains d'entre vous, vous dites, Joël, je ne sais pas c'est quoi mon appel dans la vie. Moi, je sais pour vous c'est quoi votre appel. Je peux vous le dire tout de suite. Vous avez un appel sur votre vie. Tout le monde, tous les enfants de Dieu sont appelés à ceci. Dans Marc 16, verset 15, ça dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, vous êtes appelés à être un ambassadeur de Jésus-Christ. Donc, si vous êtes différent, vous ressemblez à Jésus-Christ, vous êtes un porte-parole pour son gouvernement sur la terre, vous marchez comme Jésus, vous agissez comme lui. La puissance de Dieu qui agissait en Jésus-Christ agit en vous. Vous êtes équipé avec la même puissance divine. Et c'est merveilleux. On doit croire dans notre appel. Amen. Donc, on est des ambassadeurs. Une autre chose qu'on doit faire quand on veut évangéliser, on doit être attentif aux besoins des gens. Vous savez, quand j'habitais en Alberta, en face de chez moi, j'avais une famille très catholique qui habitait en face de chez moi. Et à côté, de l'autre côté, c'était des Mormons. Alors moi, je devais être vraiment sensible aux besoins des gens, sensible aux croyances. Et en parlant avec les Mormons, c'était des gens très gentils. Il est venu me donner un livre de Mormons un matin. Il est venu chez nous, il était haut comme ça. Et puis un petit blond bien cute, là, il est venu me donner un livre de Mormons. Puis, parce que lui, il savait que j'étais pasteur dans une autre église, puis j'avais besoin de son livre. Là, il arrive, tenez. Là, j'ai pris ça, je dis, oh, ben merci. J'ai été sensible à lui. J'ai pas dit, regarde-moi, Satan. Hein? Faut être sensible comme ça. Et là, quand j'ai été invité chez mes amis voisins, des catholiques, je suis arrivé là, c'était une famille plus catholique que ça, j'ai jamais vu ça. En arrivant dans leur cuisine, il y avait une grosse photo de Marie sur le mur. Dans la chambre des enfants, il y avait des photos de Jésus avec le cœur saignant. Dans chaque chambre, il y avait des images comme ça, là. Et puis, quand on est arrivé là, bon, on s'assied pour manger ensemble. Et là, on va bâtir sur qu'est-ce qu'on a ensemble en commun. Et je dis, vous aimez beaucoup Marie? Elle dit, oui, c'est la mère de Dieu, vous savez. C'est là, je l'écoute parler, tout ça. J'ai dit, en tout cas, Marie, c'est une femme merveilleuse. C'est elle qui a présenté le message, qui a présenté son fils, qui a présenté son ministère. Vous savez, dans le mariage de Cana, c'était le premier miracle que Jésus a accompli. C'est quand sa mère l'a présenté. Et puis là, elle m'écoute parler, elle dit, un protestant qui croit en Marie? J'ai dit, ben oui, certainement, je crois en Marie. J'ai jamais rencontré un protestant qui croit en Marie. C'est tellement merveilleux. Ça me fait tellement chaud au cœur. D'habitude, les protestants ne croient jamais en Marie. J'ai dit, certainement, je crois en Marie. Moi, c'est une bonne femme. Puis, oui. Puis là, on a pu manger ensemble puis passer une belle soirée parce que je ne l'avais pas offusqué. J'aurais pu dire, hey, c'est de l'idolâtrie avoir ça, Marie. C'était juste la mère de Jésus. J'aurais pu commencer comme ça. Mais j'ai bâti sur qu'est-ce qu'on avait ensemble, en commun. Oui, c'était la mère de Jésus. Amen. On y croit, ça, que c'était la mère de Jésus. Pourquoi tout le temps je cherchais à s'ostiner? Bâtissons sur qu'est-ce qui nous unit. Après, on gagne la confiance des gens. Et là, on peut partager qu'est-ce qui va vraiment leur donner la vie éternelle. Amen. Donc, on doit être attentif. On recherche le lien commun. Et une autre chose qu'on doit faire, c'est discerner les opportunités du Seigneur. Discerner les opportunités du Seigneur. Cette semaine, j'étais avec mon ami Pascal, qui était mon best man à mon mariage. Et puis, on se voit une ou deux fois par année. On aime ça des fois prendre un café ensemble. Puis, on est bien occupés chacun de notre côté. Ça fait que ça faisait des semaines qu'on reportait ça, cette rencontre-là. Mais on s'est dit, OK, on s'en va au parc Victoria. Et puis, on va jaser ensemble. On va prendre du temps pour fraterniser, savoir qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Et puis, en parlant avec Pascal, il me partageait comment il suivait des cours d'évangélisation, puis comment il suivait des cours au séminaire, tout ça. Ça fait que c'est tout bien. Et là, comme on parlait de l'évangélisation, on a vu deux personnes à notre droite qui faisaient des exercices comme du yoga, mais du tai chi. C'est même une autre sorte, mais ça ressemble à du tai chi. Mais je peux vous montrer cette vidéo, ils faisaient des affaires de même, dans le parc. Puis là, nous autres, on était comme, c'est particulier ça, dans le parc. Ils faisaient ça pendant longtemps, des pauses. Moi, je ne suis pas capable de rester comme eux autres. Mais pendant longtemps, là, c'était assez particulier dans un parc en public. Ça fait que là, on parle ensemble, on continue à parler. Là, nous autres, on est assis dans une balançoire. Et derrière nous, ils s'en viennent pas trop loin. Et là, ils font leurs affaires. je ne sais pas trop c'est quoi, là, mais ils font leurs affaires spéciales. Et puis là, je dis à Pascal, j'ai dit, tu penses-tu que le Seigneur voudrait qu'on parle avec ces gens-là? C'était deux jeunes hommes qui faisaient des exercices. J'ai dit, penses-tu que l'Esprit de Dieu nous donne un rendez-vous divin? Puis dit Joël, il dit, pendant qu'il était là-bas, là, ça me le disait dans mon cœur. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, tu sais, on parle de l'évangélisation, mais là, c'est le temps Dieu nous envoie des gens à qui on doit évangéliser. Ça fait qu'on s'en va là, et puis on commence à parler avec eux autres, puis on dit, on était curieux de savoir c'est quoi que vous faites tout juste. Parce que dans ma tête, je me suis dit, des gens qui font des choses comme ça dans le yoga ou les gens dans le Nouvel Âge, c'est des gens à la recherche de Dieu. C'est des gens qui ont encore ce vide-là, puis ils cherchent à le combler. Puis là, j'ai parlé justement de ça. J'ai dit, vous savez, là, on a tous un vide en dedans. Mais est-ce que vous recherchez à combler un vide? Et on dit, oui, nous, là, qu'est-ce qu'on fait? On recherche à se combler de ces énergies positives. Ils disent, on est en train de récolter toutes ces énergies-là de la planète et de l'univers. Et là, il y avait tout un discours assez particulier. Mais là, ils nous parlent de ces énergies-là. J'ai dit, ah, ben moi, là, j'ai découvert l'énergie qui a rempli mon cœur. Puis j'ai dit, moi, là, c'est Dieu. Dieu, là, puis j'ai dit, pour vous, c'est qui Dieu? Ah, oh, Dieu, c'est amour, c'est l'amour. Ah, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Dieu, là, Dieu est amour. Et la Bible nous dit que Dieu est esprit. Et Dieu, là, il veut habiter en vous. Et là, on a passé pendant au moins une heure, on a partagé l'Évangile avec eux autres. Est-ce que vous avez déjà eu un high en prenant de la drogue? Ne lavez pas la main. Mais moi, je peux vous dire, là, en passant une heure avec des gens comme ça, là, moi, j'ai quitté cette place-là avec un high spirituel. Là, j'étais comme, wouhou! Je trouvais ça capotant. Moi, j'aime ça, partager l'Évangile. Et c'est tellement merveilleux d'être simplement à l'écoute de l'Esprit de Dieu puis partager notre foi avec les gens. Puis je peux vous dire qu'on n'a pas quitté avec une prière de repentance à la fin. Sauf qu'on a tellement semé. Et quand on a quitté, là, vers la fin, j'ai parlé vraiment que Jésus était le seul chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Puis j'ai demandé des questions là-dessus. Finalement, en tout cas, on a lancé un défi. J'ai dit, s'il y a juste 1% des choses que je vous ai racontées aujourd'hui qui sont vraies, j'ai dit, pouvez-vous demander à Dieu, à cette être dans le ciel, j'ai dit, pouvez-vous lui demander de vous confirmer s'il y a une chose que je vous ai dit qui était vraie? Puis ils ont accepté l'engagement. Mais une des choses qu'on doit faire quand on parle avec les gens, c'est de rechercher le lien commun, de bâtir dessus, puis de ne pas s'attarder aux choses qui ne sont pas correctes. Parce que si on passe notre temps à dire, « Ah, tu as dit ça concernant Dieu, mais ça, c'est pas vrai. » Si on passe tout notre temps à dire qu'est-ce qui n'est pas vrai, les gens, ils vont juste s'arrêter sur qu'est-ce qu'on n'est pas en accord avec eux. Mais si on bâtit sur la vérité et on bâtit d'autres vérités, finalement, on a écrasé les faussetés et les gens peuvent être libres. Mais souvent, on embarque dans une box spirituelle. On dit, ah, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct. Il faut aussi gagner la permission de poser une question. C'est une chose très importante. Souvent, si on n'a pas vu une récolte d'âmes dans nos églises, c'est parce qu'on a été trop direct avec les gens. On a dit, tu t'es-tu repenti de tes péchés? Hein? Tu sais, tu t'en vas en enfer là, si tu n'es pas repenti. Bon, en parlant comme ça, là, on vient de poser une question, mais on n'a pas demandé à la permission de la personne si on avait le droit d'y poser la question. Là, la personne ne se sent pas respectée, elle se sent méprisée, elle sent comme, « Hey, tu m'envahis. » Mais moi, la façon, là, je donne juste une technique, si on veut, là, mais c'est une chose importante, c'est une question de respect. Demandez toujours, « Est-ce que je peux te poser une question? » Moi, c'est la façon que j'opère. « Est-ce que je peux te poser une question? » La personne, « Oui. » « Bien, est-ce que tu as déjà pensé à Dieu? » Pour qui? Pour toi, Dieu, c'est qui? Puis là, la personne commence à dire, bien, pour moi, Dieu est X, Y, Z. Mais on pose des questions, beaucoup, beaucoup de questions. Et on laisse la personne nous partager les choses. Et là, on bâtit sur les choses qu'ils disent de vrai. Ça, c'est important. Donc, on pose des questions et on écoute. Ça, c'est une chose importante. Si les gens se sentent écoutés, les gens vont vous écouter. Souvent, nous autres, les chrétiens, on veut parler parce qu'on a la vérité, puis on veut juste bombarder les gens avec la vérité. Mais les gens qui sont dans l'erreur, eux, ils croient dans leur erreur autant que vous croyez dans votre vérité. Savez-vous ça? Les gens, ils croient là, dans la réincarnation, plein d'affaires, tout croche. Puis si vous ne prenez pas la peine de les écouter en souriant, en ayant un esprit rempli d'amour envers eux, bien là, vous n'allez pas avoir l'opportunité de partager la vérité. Sauf que moi, j'en ai écouté des choses que je ne croyais pas, toujours avec un beau sourire. Ah, ouais, ah, oui, OK. oui, puis pendant ce temps, le Seigneur, touche-le, Seigneur, touche-le. c'est comme, on prie, et là, mon ami aussi qui était là, il priait en même temps. Pendant que moi, je parlais à lui, il priait pour les personnes, il priait pour moi. Puis tout le long, là, on sent là, la synergie divine, on sent la présence de Dieu s'établir. Parce que je sais que qu'est-ce qu'on a semé dans leur cœur, ils vont avoir une récolte, parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir porté son effet. Alors, je sais qu'il y a de quoi qui s'est passé là. Et ça me réjouit, mais il y a des choses qu'on doit faire. On doit faire vraiment attention de respecter les gens. Puis je crois que si on fait ça, là, on ne fait pas de compromis, mais on agit différemment. Et si on fait toujours les choses comme on a toujours faites, on va toujours voir le même résultat. Hein? On arrive en disant aux gens, « Hey, tu s'en vas en enfer tout de suite. » Et puis là, on n'a pas bâti un lien de confiance. Ça risque d'être plus difficile. On sait que Jean-Baptiste, il y avait ce ministère-là, c'était la voix qui criait dans le désert, qui disait « Repentez-vous! » Et il y a certainement la place pour ça quand Dieu nous appelle à le faire et Dieu vous donne la plateforme. Dans le temps, là, Jean-Baptiste, c'était comme l'évangéliste de l'heure. C'était comme Billy Graham à la télévision qui disait « Repentez-vous! » qui parlait aux milliers de personnes à la télévision. Mais dans un cas un à un, des fois, c'est bon d'approcher les gens différemment. OK? Je vous donne ça. Si vous voulez continuer à dire « Repentez-vous! Repentez-vous! » on va voir les fruits qu'on va voir, là. Mais il y a une onction spéciale pour l'évangile, je pense, qui est appelée à Dieu pour le faire dans un contexte comme ça. Donc, on veut certainement toujours respecter l'intimité des gens quand on évangélise et on écoute également. Donc, l'intimité des gens. Et par ça, quand on dit respecter l'intimité des gens, on dit poser une question. Et il y a deux questions qu'on peut poser aux gens si on veut vraiment connaître l'état spirituel d'une personne. Ça ne prend pas beaucoup de temps. En dedans de deux questions, vous posez deux questions, vous connaissez déjà où est située la personne. Première question qu'on demande, on appelle ça les questions à diagnostic. Première question, c'est que si vous mourrez aujourd'hui, OK, vous mourrez aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr et certain de vous en aller au ciel? Donc, on demande la question, est-ce que la personne a une certitude d'aller au ciel? Et là, la personne va dire, « Oh, je l'espère. Ah oh oui, je suis sûr. Ah oh non, je ne suis pas sûr. » Il y a des réponses variées. Par la suite, là, on pose la deuxième question à diagnostic qui nous dit, « OK, si vous mourrez aujourd'hui, et là, vous vous présentez devant Dieu, et Dieu vous demandait, pourquoi est-ce que je devrais vous laisser rentrer au ciel? Ça serait quoi votre réponse? » Là, on va avoir toutes sortes de réponses. Les gens vont dire, « Ah, ben moi, je suis une bonne personne. » Moi, je dirais à Dieu, je suis une bonne personne ou j'ai toujours été à l'église, j'ai essayé de suivre les 10 commandements ou j'ai pas tué personne. Là, on a la base de la foi de la personne. Ils viennent de vous le révéler. Si une personne vous dit, « Ah, bien, moi, j'ai demandé le pardon de mes péchés, j'ai invité Jésus à entrer dans ma vie et je crois vraiment là, qu'il m'a sauvé. » Là, vous connaissez la base aussi de cette personne-là, sa base de foi. Moi, je me suis fait approcher par deux chrétiens qui m'ont posé des questions en diagnostic. Ils ne savaient pas que j'étais chrétien. Et on dit, est-ce que tu es sûr de t'en aller au ciel? Ah, moi, je suis 100% sûr. Ah oui, ah, c'est bien. Et si Dieu te demandait, là, pourquoi, si tu mourais aujourd'hui, puis Dieu te demandait pourquoi je devrais te laisser rentrer au ciel, ce serait quoi ta réponse? Je dis, ah, ben moi, je peux dire que Jésus m'a pardonné de tous mes péchés par la grâce, là, Dieu m'a totalement lavé, et puis j'ai placé ma confiance en lui à 100%. Ah, tu es un chrétien, toi? J'ai dit, oui, je suis un chrétien. Mais voyez, on peut voir la réponse comme ça. Mais si quelqu'un vous dit, ben j'ai bien performé pour Dieu. OK, on sait que la personne, sa foi est placée dans sa performance, pas dans la performance de Jésus-Christ pour lui. Et donc, là, on peut parler avec eux autres. Et là, pour être sûr de bien respecter la personne en ayant posé les bonnes questions, là, on répète qu'est-ce que la personne a dit. C'est que si je comprends bien, tu es en train de me dire, parce que tu as suivi les 10 commandements, tu t'en vas au ciel. Ouais, c'est ça. Parce que savez-vous, des fois, les gens m'ont dit de quoi, et là, par la suite, vous continuez à dire, mais c'est pas en suivant les 10 commandements qu'on se rend au ciel. La personne va vous dire, ben, j'ai jamais dit ça, là. J'ai jamais dit ça. C'est pas ça que je voulais dire. Et là, ils se défendent des fois. Mais si vous arrivez, vous confirmez, posez question, après, vous dites, si je comprends bien, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Bon, mais là, à partir de ça, là, vous faites établir la base. Savez-vous que le ciel, c'est un don gratuit? Vous avez rien à faire pour le mériter? C'est un don que Dieu veut vous donner. Et là, c'est merveilleux qu'est-ce qu'on peut voir, les résultats. Et quand on commence à appliquer des choses de base, mais qui sont vraiment importantes à utiliser dans nos vies, on peut voir des personnes venir au Seigneur. Mais souvent, on ne diagnostique pas bien les personnes. Et des fois, on pense que les gens sont sauvés. Ça fait 25 ans qu'ils sont dans une église et qu'ils n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. Savez-vous ça? Il y a des chrétiens qui sont dans nos églises et qui ne sont pas encore sauvés. On leur demanderait, « Monsieur, Pourquoi que vous rentrerez au ciel? Mais je vais à l'église chaque dimanche puis je donne ma dîme. Il y en a qui font même ça. Ils pensent qu'ils vont se rendre au ciel comme ça. Mais moi, je crois, là, on peut bien connaître les gens comme ça. C'est une façon très facile. Donc, on respecte les gens, on demande la permission et on refuse de débattre la parole. Okay, on ne se débat pas. Cependant, dans 1 Pierre 3,15, ça dit une chose très importante, qu'on ne va pas se débattre, mais on va savoir défendre notre foi. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Toujours, on devrait savoir comment se défendre dans notre foi, mais avec douceur et avec respect. C'est la parole de Dieu qui nous le dit ici. Je me rappelle d'une jeune fille témoin de Jéhovah avec qui j'ai été à l'école. Elle avait peur des chrétiens. Savez-vous pourquoi? Parce que son oncle chrétien avait été de passage chez elle. Il avait été en visite chez elle. Et quand, là, il s'est mis à dire des choses que lui ne croyait pas dedans, il s'est mis à donner un coup de poing sur la table. Il dit, c'est pas vrai, ping! Puis, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu dis là? Puis elle, la petite jeune fille, elle avait peur des chrétiens. Parce que le monsieur chrétien avait perdu contrôle. Il n'avait pas été rempli de cette douceur et du respect. Donc, c'est une chose. On doit être prêt à défendre notre foi. Et on doit être prêt également à respecter la culture de notre interlocuteur. La personne avec qui on parle, il faut être prêt à respecter sa culture. OK? Une chose importante, dans 1 Corinthiens 9, 19 à 22, ça dit, je ne sais pas, je vais tout le lire, mais OK, je vais le lire, mais c'est 1 Corinthiens 9, 19 à 22. OK, ça dit, car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Donc, la personne met de côté des libertés personnelles, sera esclave des autres. On continue. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui ne sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant pas non plus sous ce régime, afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. Bien entendu, cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Au contraire, je vis cela selon la loi du Christ. Dans mes relations avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme l'un d'entre eux, afin de les gagner. C'est ainsi que je me fais tout à tous. Connaissez ce mot-là, tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Donc, si on est capable de mettre de côté, des fois, nos couleurs pour ne pas offenser les gens, ou on met de côté nos couleurs pour être un instrument pour gagner la personne, bien, c'est bien. Des fois, c'est correct. Moi, je ne mange pas de porc, vous savez. Je ne mange pas de porc. Ce n'est pas de quoi que j'aime. Mais j'ai été invité à souper chez un pasteur. Puis qu'est-ce qu'ils ont servi? C'était du jambon. Bon, ben, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit, moi, je mange pas de porc. Non, j'ai mangé du jambon, mais j'en ai pas mangé beaucoup. J'ai mangé plus de d'autres choses. Mais ça, c'est une chose. C'est juste une question de santé que nous, on n'aime pas le porc. C'est pas une question religieuse, c'est une question de santé. Mais là, je me rends tout à tous. Pour eux, ils me faisaient un beau repas, c'était du porc. Bon, ben, j'en ai mangé. Pour ne pas les offenser. En Chine, comme je l'ai dit la semaine passée, ils peuvent vous servir du chien. Mais c'est quoi que vous mangez en Chine? Ben, on prie que Dieu nous épargne de cette expérience. OK? On veut respecter la culture de notre interlocuteur. On se rend tout à tous. Mais on respecte aussi notre culture chrétienne. Il y a des gens qui veulent être tellement cool, ils veulent tellement gagner les gens qu'ils deviennent comme eux autres. Connaissez-vous des gens comme ça qui veulent tellement là, plaire puis gagner des gens que finalement, on ne voit plus de différence entre eux autres et les païens? Il faut demeurer dans notre culture chrétienne. Et où c'est qu'on la trouve, cette culture-là? C'est la parole de Dieu. Toujours, on demeure toujours fidèle à la parole. Dans Jude 1, 22-23, ça dit « Ayez pitié de ceux qui hésitent. Il en est d'autres que vous pouvez sauver en les arrachant du feu. À d'autres encore, montrez également de la pitié. Une pitié mêlée de crainte. Évitez tout contact même avec leurs vêtements tachés par leur passion humaine. Donc, c'est à nous d'influencer les perdus sans devenir tachés par leur influence. » Nous autres, on veut être remplis d'amour, on veut être remplis de compassion, tout ça avec les gens. On veut les influencer, mais on veut pas que ce soit eux qui nous influencent dans la mauvaise direction. C'est à nous d'être l'inspiration. C'est à nous d'être un leader dans le monde. Et ma prière pour mes enfants, c'est que ces enfants-là, les enfants, des enfants de Dieu, en allant à l'école, ils vont être un modèle. Puis les gens vont voir, hey, ces deux petites chrétiennes, c'est comme ça qu'ils agissent. Et ma prière, c'est qu'ils puissent être des leaders, qu'ils puissent influencer les autres à devenir des chrétiens, au lieu que ce soit l'inverse. Souvent, c'est ça qu'on voit, et c'est un danger. Donc, il faut faire attention à ça, de respecter notre culture biblique. Amen. Et Romains 11, 22, ça dit, « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. On prêche que Dieu est bon, certainement, ok? On prêche que Dieu est bon, mais il faut se rappeler aussi qu'il y a une base qu'on doit suivre, et c'est la parole de Dieu. Donc, Dieu est bon, mais sévère en même temps. On ne veut pas changer notre message pour personne. C'est aux gens de changer pour la parole. On ne changera jamais notre message. On ne dira jamais aux gens, « Hey, OK, là, finalement, c'est Jésus et Bouddha. » Vous ne m'entendrez jamais dire « C'est Jésus et Mohammed ou et Bouddha. » On ne changera pas notre message. C'est aux gens de changer et de recevoir ce message qui va les changer et les transformer. C'est une chose parce que de nos jours, dans les églises, et même dans des églises du plein évangile aux États-Unis, c'est rendu qu'on change notre message et on ne parle plus du sang de Jésus-Christ. On a enlevé toutes les paroles qui parlaient du sang de Jésus-Christ dans les répertoires de chants parce que ça peut offenser des gens. Hey, parler du sang, c'est offensant, c'est pas beau. Justement, la raison pourquoi on faisait des sacrifices dans l'Ancien Testament et on égorgeait un animal puis il y avait tout le sang qui coulait, savez-vous pourquoi? C'est parce que Dieu voulait nous démontrer comment le péché, c'était laid. Puis à chaque fois qu'il devait sacrifier un animal, il se rappelait que « wesh, mon péché, c'est wesh de même aux yeux de Dieu ». C'est pour ça qu'il y avait la mort comme ça de cet animal-là qui devait être égorgé, étranglé, puis là après, tout le sang qui coulait. C'est pas beau, mais c'est ça, nos péchés, c'est pas beau. Alors là, on va mettre de côté le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. On change notre message pour accommoder les gens. Jamais, on ne changera pas notre message. La parole de Dieu est éternelle. Amen. Donc, on garde toujours notre message. Et même, j'ai entendu ça hier, que dans des églises en Floride, c'est rendu qu'ils veulent tellement accommoder les gens qui ont commencé un club dans l'église. C'est que le club, voici, moi j'ai trouvé ça scandaleux, mais qu'il va y avoir des échanges entre couples dans l'église. Des échanges de couples dans l'église. Donc, un mari chrétien va prendre une autre femme chrétienne de l'assemblée. C'est correct parce qu'ils font ça entre chrétiens. Non, chacun ailleurs, ça se peut pas que c'est rendu aussi loin de même. On a changé notre message en titi. Mais c'est vrai, là. Mais ça se passe de nos jours. On va toujours croire au nom de Jésus dans la parole de Dieu et on va se soumettre à ça. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on met ces choses en pratique dans nos vies, on va relâcher notre foi pour récolter les âmes perdues. Pas devenir comme eux autres, mais les récolter, les sortir de leur misère, les sortir du péché dans lequel ils vivent et récolter ces âmes-là pour qu'ils puissent être purifiés, lavés, en route pour le ciel. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. C'est de voir des âmes sauvées. Donc, on veut récolter les masses au nom de Jésus. Toujours dans la pensée que Dieu aime les gens. Et moi, je sais que le Seigneur veut se servir de vous. Chacun d'entre vous, Dieu a un appel, Dieu a une destinée pour vous. Et il y a des gens dans votre sphère d'influence, il y a des gens là, que vous connaissez qui ne connaissent pas encore Dieu. Mettez de côté la pensée que c'est impossible de les rejoindre, ces gens-là. C'est possible de rejoindre ces gens-là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour rejoindre les gens perdus dans notre environnement? Premièrement, priez pour eux. Aujourd'hui, là, je vais vous donner un défi. Je vais vous lancer un défi aujourd'hui. C'est de prier pour une personne. Priez là, que Dieu vous donne un nom aujourd'hui même et que cette semaine, vous allez prier que cette personne-là se convertisse à Jésus-Christ. Combien de personnes maintenant peuvent dire que vous connaissez au moins une personne qui ne connaît pas Jésus? Bon, bien, il y en a ici qui ne connaissent pas encore, vous avez des amis qui ne connaissent pas encore Jésus. Est-ce que je peux vous demander cette semaine de prier pour cette personne-là? Priez que Dieu vous donne l'opportunité de les évangéliser, que Dieu vous donne l'opportunité de mettre en pratique le message que vous avez entendu. Il y a une façon de partager notre foi. Et si vous oubliez toutes les choses que je vous ai partagées, rappelez-vous simplement de laisser l'amour de Dieu gouverner et vous conduire. Si vous êtes toujours connecté et vous laissez l'amour de Christ couler dans vos cœurs, vous allez gagner des âmes au Seigneur. Et rappelez-vous aussi que c'est l'heure de la récolte. C'est l'heure de la récolte aujourd'hui. Il y a des gens que vous connaissez dans votre sphère d'influence qui peuvent venir au Seigneur et que le Seigneur appelle en ce jour. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager, cette semaine, pensez, qui est-ce que je peux inviter? Et là, on va voir une récolte d'âmes. On va voir des gens sauvés. Et moi, je crois que le Seigneur veut remplir cette place avec des gens. Et beaucoup de jeunes, on est au cégep, c'est pas pour rien. Mais Dieu a besoin de vous. Ce matin, je vais vous faire répéter une chose. Simplement, Dieu a besoin de moi. On va dire encore. Dieu a besoin de moi. Le croyez-vous? Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin que vous parlez en son nom. Littéralement, Dieu a besoin de vous. Et si on peut parler, si on peut même investir une heure et demie pour distribuer des traités, des pamphlets, des posters, Dieu va se servir de ça. Et en passant, quand on va distribuer nos posters pour l'Église ici, on va prier ensemble sur les posters et on va s'attendre que des gens qui ont besoin de Dieu, qui ont soif présentement, qui sont prêts, qui vont venir à cause de cette invitation-là. Moi, j'ai la foi que Dieu peut faire des grandes choses parmi nous, mais soyons allumés et soyons ranimés dans notre foi aujourd'hui. On ne vit pas une vie chrétienne écrasée, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas écrasés, vous n'êtes pas perpétuellement brisés. Non, vous étiez brisés, vous avez réalisé que vous étiez pécheurs en faillite spirituelle, mais là, le Seigneur vient nous remplir. Et là, on est devenu riche en lui, on est devenu riche spirituellement. Amen. Et il y avait un texte que je voulais vous lire, je ne me souviens plus c'est où exactement. On va sauter. C'est ça, je ne sais pas où c'est qui. Mais c'est un texte qui nous parlait justement comment Jésus s'était rendu, lui qui était riche au ciel, s'était rendu pauvre pour nous, afin de nous enrichir. Et Dieu veut nous enrichir spirituellement. Il veut qu'on soit animé comme ça de cette puissance. Et la puissance de Dieu, cette semaine, moi je m'attends que la puissance de Dieu va couler à travers vous. Cette semaine. Pas demain, là, pas dans 2 mois, pas dans 3 mois. Cette semaine, on va avoir des témoignages dimanche prochain, des gens qui vont avoir expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. Moi, je crois ça. Est-ce que vous le croyez pour vous-même, que le Seigneur va vous envoyer des gens? Ça se peut là que Dieu va vous envoyer des gens et comme nous autres, dans notre cas, on a dû se déplacer puis aller jaser avec ces deux gars-là qui faisaient du tai chi. Ça se peut que vous ayez été obligé de prendre des pas par la foi, mais n'ayez pas peur. Dieu va vous remplir de ses paroles. Et là, vous allez avoir un high spirituel à la fin parce que vous allez avoir marché dans l'obéissance à Dieu. Amen. Alors, en terminant, je vais inviter l'équipe de louanges. Et je vous laisse ce message. Allons récolter. Récoltons. Dieu veut sauver le Québec. Dieu veut sauver le Québec. Dieu n'a pas oublié les Québécois, mais Dieu veut les sauver. Et Dieu va se servir de vous, même aujourd'hui. Amen. Alors, je vous rappelle mes posters, je vous laisse avec ce message subliminal jusqu'à la fin. On va prier, on va remettre aussi notre temps. Ce qu'on a reçu aujourd'hui, on va prier. C'est pas un message d'un joug, j'espère que vous voyez pas ça comme un joug. C'est un message, une exhortation aujourd'hui. Et je m'exhorte moi-même là-dedans. On s'exhorte, on s'encourage à devenir des chrétiens qui font de quoi. Parce que moi, je crois là, que cette place peut être remplie de jeunes. Et vous allez trouver ça encore plus merveilleux. Et des plus vieux, des jeunes, des plus vieux, de tous les âges, certainement. Mais je crois que Dieu là, veut faire de quoi de grand. Il veut faire de quoi de grand. Mais il a besoin de nous. Alors, on va prier ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On te remercie, Jésus, parce que tu es notre modèle parfait, Seigneur Dieu. Tu nous as montré comment faire. Tu ne nous as pas laissé tout seul et tu nous as également accordé ton esprit. Seigneur, tu veux te servir de nous. Et Seigneur, aujourd'hui, je prie que chaque personne qui a entendu ce message aujourd'hui, qui puisse recevoir ce message par la foi et qui puisse vraiment prendre racine dans les cœurs, Seigneur Dieu, qu'on puisse y aller, Seigneur, et obéir à ta parole, d'aller par toutes les nations et de prêcher ton évangile. Oh Seigneur, donne-nous des âmes cette semaine. Donne-nous, Seigneur, à donner ton message, le message du salut en Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te prie que tu nous remplisses de toi, que tu nous remplisses de ta ta sagesse, Seigneur Dieu, que tu nous remplisses de ta parole, Seigneur Dieu, et qu'on puisse voir une récolte au Québec, au nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, je prie également cette prière, le shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé dans nos vies, mais le shalom de Dieu qui repose sur chaque personne qui est ici. On a prié au nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.